Salut à tous. Lorsque l'on parle d'OVNI, les plus sceptiques se gossent en brandissant immédiatement les pisomes verts. Ils devraient se plonger dans les livres pour comprendre que ce sujet, contrairement à eux, est pris très au sérieux par les gouvernements des pays les plus riches. La preuve, en 1950, le ministre des Transports canadien va valider une étude pour déterminer si des véhicules extraterrestres pourraient exploiter le champ magnétique terrestre comme méthode de propulsion. OVNI, le projet Magnet, c'est inédit sur BTLV avec François Garigeon. Salut François.
Bonsoir Bob.
Ravi de t'accueillir pour une nouvelle émission sur BTLV. La Garigeon Family est en force dès qu'il s'agit de UFO. Et on va parler de ce projet qui va nous ramener en 1950. Un ministère va valider une étude.
Bon voilà, c'est un très bon sujet. Donc nous saluons au passage nos amis canadiens qui sont parmi les premières nations au monde qui ont réellement étudié le sujet ufologique de façon sérieuse, puisque le gouvernement a pris en charge de telles recherches. Donc nous avons le ministre des Transports canadien qui a été contacté par M. Smith. Et M. Smith lui présente la chose de cette façon, c'est-à-dire qu'il a détecté, lui qui est ingénieur en radio et en électronique, a détecté des anomalies. Et en les corroborant avec les déclarations d'observation d'OVNI au Canada, il s'est dit « Tiens, c'est bizarre, c'est étrange. Les gens observent des ovnis, en même temps, nous, chez les militaires, chez les civils, on rencontre des anomalies magnétiques dans nos appareils, sur les radars, sur les radios. Donc, il est possible qu'ils utilisent ce moyen de transport, ou que ça leur serve à quelque chose, et c'est étroitement lié. » Alors, on verra plus tard. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il s'intéresse au magnétisme et aux ovnis. Et on s'apercevra plus tard, on en avait parlé un petit peu dans une émission de BTLV, que les brevets UFO, les brevets OVNI de la marine américaine de 2021, concernent la propulsion électromagnétique. Donc on est en 2021, lui est en 1950, les Canadiens sont pionniers dans la détection de ce genre de choses. Et donc on apprend cette affaire grâce à un dossier secret, un dossier secret qui est enregistré, case 7523, voilà, dans lequel les services secrets canadiens disent oui, le ministère des Transports a donné de l'argent et a validé le concept de lancer une recherche sur les ovnis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la CIA va connaître l'existence du projet avant même que Smith le soumette au ministre. Au ministre des Transports.
C'est-à-dire qu'il y a eu des fuites avant même que ce
soit... c'est un petit peu comme Blue Book, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ufologie, qui s'y intéressent, et apparemment, la CIA s'intéresse suffisamment à lui, ou lui a placé des micros, chez lui, on ne sait pas trop, mais enfin, elle sait quels sont ses projets avant que lui ne les soumette au gouvernement, et avant même que le gouvernement prenne la décision de le rencontrer. Quoi,
d'ailleurs, les Américains vont aimeraient avoir, je crois, une réunion avec les responsables canadiens.
Voilà, donc lui va présenter son truc au ministre, mais bon, avant qu'il présente déjà son histoire au ministre, il y a les Canadiens qui disent « Ouais, bon, nous, il y a une affaire qui nous intéresse, il y a un gars chez vous qui s'appelle Smith, dans le cas où vous valideriez ces recherches et que vous vous lanceriez là-dedans, nous sommes intéressés. Voilà. Et donc, ils vont rencontrer des responsables canadiens à très haut niveau, au niveau ministériel.
Il y a ce mémo va être classé secret jusqu'en 1969 et déclassifié par la suite.
Voilà, donc on sait toutes ces informations, la rencontre avec la CIA, le dossier de Smith, que c'est relié avec les ovnis, parce qu'il y a un mémo qui est classé secret, confidentiel, ne pas diffusé. Et puis en 1969, il est accidentellement déclassifié. C'est-à-dire qu'ils sont en train de ranger les trucs et à un moment donné, il y a quelqu'un dans les services de renseignement qui le regarde et qui dit « Oui, c'est un truc secondaire, c'est pas très important. »
Hop, on balance.
Donc on balance, on peut déclassifier. Et il déclassifie, sauf que sur le dossier, il y a un sceau où il y a marqué que ce document ne devra jamais être communiqué au public, quelle que soit la date.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée de classification.
D'accord.
Pour l'éternité, en quelque sorte.
Alors, ce projet Magnet, il va être validé.
Donc, 10 jours plus tard, on est le 2 décembre 1950, le projet Magnet est validé. Donc, c'est le docteur Soland, président du Conseil canadien de recherche pour la défense, qui accepte de lui fournir un bâtiment. C'est-à-dire que c'est le ministère des Transports aériens canadiens qui budgète, mais c'est l'armée qui va lui fournir le terrain et le bâtiment pour qu'il fasse ses recherches.
D'accord. Ok. Donc on voit quand même que l'armée est toujours dans le coin.
Hein. Donc on voit que l'armée est toujours dans le coin. Je dirais même que Smith n'est pas un inconnu. Lui-même a déjà travaillé pour les services de renseignement de l'armée. Dans quelles circonstances ? Eh bien, pendant la guerre, il travaillait au service de communication et de la radio de l'armée. Mmh. Et il était chargé des communications avec les URSS.
D'accord.
Donc on sent qu'il avait quand même des liens. Ce n'était pas un inconnu pour eux, c'est quelqu'un qui était de chez eux, de la maison. Il a quand même eu des facilités.
C'est aussi pour ça peut-être qu'ils lui ont donné ce terrain, qu'ils lui ont permis de travailler.
On sent quand même qu'il a des liens, etc. Et qu'ils
juste... disent que s'ils découvrent quelque chose, ils seront les premiers à former.
C'est une personne sérieuse dans la mesure où ils vont quand même dans son sens. Donc ce bâtiment, le bâtiment du projet Magnet, va exister jusqu'en 2011.
D'accord.
Alors au centre d'un terrain militaire très vaste, qu'ils ont appelé Shirley's Bay. Mm-hmm. Et son bâtiment, lui, s'appelle le Centre de Recherche et de Développement pour la Défense du Canada. Et il se trouve Avenue Carling. Avenue Carling, c'est une avenue dans la base. Hein, mm-hmm. Dans la base. Alors, c'est un grand mot, Centre de Recherche, pour un tout petit bâtiment, quand même.
Alors, ce qui est intéressant, là, encore une fois, c'est un peu ce qui nous ramène aujourd'hui à l'actualité. Le Pentagone qui valide le phénomène, qui met en place un département, un GEPAN, l'américaine, encore une fois, c'est pour la défense nationale. Et là, on voit bien qu'en fait, c'est le Centre de Recherche et Développement pour la Défense du Canada. C'est-à-dire que même si c'est le transport aérien, le ministre des Transports qui valide l'étude, il y a quand même un Centre de Recherche pour le Développement de la Défense du Canada.
Enfin, voilà, donc... De la Défense. Au départ, Smith, quand il présente ça au ministre des Transports, il le dira dans ses mémoires, il dit moi ce qui m'intéressait c'est la propulsion à des fins civiles, les avions, etc. etc. Et puis très rapidement, on voit que la CIA rentre dans le coup, on voit que le ministère de la Défense canadien y rentre dans le coup, et que tout de suite ça prend une autre orientation, c'est-à-dire que ces travaux vont devenir confidentiels, et que bien que le ministère des Transports budgète les recherches, eh ben, il n'est plus dans le coup. Mmh. Lui, il disparaît de l'affaire.
On sait que bon, le site va être démoli en 2011, mais on sait aussi qu'il y a eu un peu de moquerie à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on va se moquer un petit peu de... On va dire qu'on a créé une piste d'atterrissage pour les ovnis, etc. Voilà,
le bâtiment en question, le bâtiment de recherche, se trouvait 67 sur l'avenue Carling. Ouais. Il sera démoli en 2011. Mmh. Il était constitué d'un petit bâtiment... avec de la technologie et d'une grande antenne. Mmh. Là-dessus, Lionel Chevrier, qui était ministre des Transports canadien, à un moment donné, il va dire, oui, effectivement, le ministre des Transports canadien est très intéressé par la présence éventuelle d'avions exogènes extraterrestres ou terrestres. Mmh. Et nous avons même prévu une piste d'atterrissage. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu, sur la base militaire, une piste d'atterrissage pour les ovnis.
Carrément.
Carrément. C'est le seul cas au monde. Le seul cas au monde.
Non, il y en a une, tu sais où ?
Ah.
À Arcachon. Ah. Non, sur le bassin d'Arcachon, il y a une piste d'atterrissage d'ovnis. Voilà.
Mais postérieure, c'est-à-dire qu'à l'époque...
Ah oui, voilà. Postérieure.
Voilà. À l'époque, c'était les premiers. Maintenant, on est les deuxièmes.
Il y a une piste d'atterrissage pour les ovnis.
C'était là, vraiment les initiateurs. Il faut rendre aux Canadiens le fait qu'ils étaient les initiateurs dans la recherche officielle.
Alors l'équipe, il a une équipe, elle est composée de quoi et de qui ?
Alors l'équipe, c'est Smith, l'ingénieur en chef. Trois ingénieurs supplémentaires et deux techniciens. Trois, quatre, cinq, six, sept personnes.
D'accord. Donc il y a des équipements, il a un peu de moyens ou pas ?
Il y a des moyens technologiques qui apparemment sont illimités. Hein, ils n'ont pas donné de limite de dépenses d'argent.
D'accord.
Il y a une antenne, il a la fameuse piste d'atterrissage qui a été construite exprès pour les ovnis. Mm-hmm. Donc on sent quand même qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont là.
C'est fou d'imaginer qu'un gouvernement va...
On est en 1950, dans les années 50.
C'est ça.
Et on te dit, Bob, si tu as un sujet là-dessus sur lequel tu veux travailler, je te donne des moyens illimités. Bon, c'est quand même fou.
Alors, il y a Arnold Wright, un officier qui va l'aider aussi.
Donc, il y a un monsieur Wright qui est attaché.
Wright. Je reconnais bien ton accent américain, Wright.
J'ai des problèmes avec les Américains, on va dire Wright.
C'est pour ça que tu as un t-shirt russe avec BTLV. Quand
voilà, il faut quand même reconnaître que BTLV est notre chaîne préférée, y compris aux Canadiens et aux Russes.
Oui, c'est ça.
Ils nous regardent également. C'est pour ça que j'en fais un clin d'œil. Et donc, monsieur Wright est un attaché militaire dans une ambassade. Il faut rappeler quand même que l'attaché militaire, dans ce terme, englobe aussi également le responsable de l'agence de renseignement du pays. Dans le pays étranger. C'est-à-dire que les attachés militaires russes sont généralement des espions et les Américains le sont également.
Bien sûr, bien sûr.
Et ça va se confirmer, vous allez le voir. Donc Smith va être contacté par Wright en décembre 1952 et il lui propose de rencontrer des scientifiques américains.
en disant, bah, écoutez, j'ai appris que vous existiez, vous m'intéressez, votre sujet m'intéresse. Je vais vous faire venir aux États-Unis et vous faire rencontrer des scientifiques qui travaillent comme vous sur les sujets ufologiques. Vous allez voir, ça va vous aider et ça va faire avancer vos recherches.
Il va d'ailleurs avoir une accréditation totale. Hein,
et on va s'apercevoir, c'est ce que je disais, que M. Wright n'est pas seulement un responsable militaire lambda, c'est qu'il a des très très hauts niveaux d'accréditation militaire au plus haut niveau. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des levels. Lui, il est au top.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au sommet de la pyramide, il peut avoir accès à tout. Que ce soit dans l'armée de l'air, la marine, la CIA, l'armée de terre.
Alors ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que Charles Bay, donc, qui est l'endroit où il y a cette officine pour retrouver cette piste d'atterrissage OVNI, est interdite de survol.
Voilà.
Par les avions terrestres et militaires.
C'est-à-dire que ce n'est pas une base lambda, puisqu'on a transformé ça un petit peu en blocos. On a dit qu'il est interdit à tout avion civil ou militaire de survoler la base, la zone de la base. Donc c'est vraiment no man's land.
Et c'est pour ça que c'est intéressant que le 8 août 1954, il va se passer quelque chose.
Donc à 15h01, le 8 août 1954, à Shirley Bay, dans la région d'Ottawa, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont une détection radar. Ils ont une détection avec leur antenne. Leurs appareils enregistrent également des anomalies magnétiques. Ce que je n'ai pas précisé, mais que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a détection également des militaires, du radar militaire local, de cette anomalie. Et donc, ils vont sortir. Ils vont sortir à l'extérieur parce qu'ils veulent voir ce que c'est. Il y a quelque chose au-dessus de la base, mais quelque chose de géant. Ce truc, c'est énorme. Énorme. Donc, ça brûle les appareils. La technologie va tomber en panne, bien entendu, chez les militaires et dans le centre de recherche, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand tout va tomber en panne, ils vont sortir, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des nuages, les nuages sont d'une couleur verdâtre un peu bizarre. C'est des nuages, c'est flou, c'est pas vraiment des nuages, et puis ils ne peuvent pas voir ce que c'est. Bon, ça reste là quelques secondes, ça disparaît, bon, les nuages redeviennent normaux, les appareils refonctionnent.
Alors ça c'est intéressant aussi, parce qu'on dit souvent que parfois, les ovnis se cacheraient dans les nuages. Il y a souvent des choses qui, comme s'ils se dissimulaient.
Est-ce qu'ils se servent des nuages? Est-ce qu'ils créent des nuages?
Bien sûr, ouais,
enfin, le fait est que c'était des nuages qui n'étaient pas normaux et des nuages qui vont disparaître avec le passage de l'ovni.
Alors, on est le 8 août 1954, mais deux jours plus tard, Smith va être licencié.
Donc voilà, l'information,
va fuiter.
Et va fuiter, c'est trop gros, c'est trop énorme. Hein. On ne sait pas à quel niveau ça a fuité, mais ça a fuité. Donc les journaux vont tabler. Bon, un ovni a survolé une base secrète de l'armée canadienne. On a des preuves, il y a des témoins. L'armée a des preuves. On a enregistré l'événement, etc. Deux jours plus tard, on est le 10 août 1954. Il est convoqué au ministère des Transports. Et aérien, et on lui dit, on a un ordre, ça s'arrête là pour vous, vos recherches s'arrêtent, financement zéro, vous êtes licencié, out.
Alors on lui dit quand même, vous pouvez rester, mais à vos frais.
Alors ils lui disent, si vous voulez continuer un petit peu vos petits travaux, vous êtes gentil, on va vous laisser les bâtiments. Mais en même temps, le ministère des Transports ne pourrait pas lui enlever, puisque les bâtiments ne lui appartenaient pas, ils appartenaient à l'armée.
D'accord.
Mais ils lui disent, vous pouvez continuer si vous faire vos travaux, ça ne nous dérange pas.
Mais finalement.
Et on s'aperçoit à ce moment-là, il va être contacté par les Américains.
C'est ça. Et l'Amérique va reprendre le flambeau.
Voilà. Donc l'Amérique revient, la fameuse CIA revient, elle va voir le ministère de la guerre et dit attendez, bougez pas, il n'y a pas de souci, il y a un problème d'argent. Et bien il n'y a plus de problème d'argent. L'argent, c'est nous. Et donc ils vont subventionner. Donc à partir de ce moment-là, Smith va avoir de l'argent qui vient des Américains pour continuer ses travaux. Et les Américains vont lui dire, non, mais il faut le laisser dans les bâtiments. Vous le laissez dans les bâtiments, c'est nous qui payons les frais.
D'accord, ok. Donc c'est l'ami américain, comme à chaque fois.
Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Les Américains déboulent,
c'est soit ils prennent le type et ils l'emmènent chez eux, soit ils ne peuvent pas le faire, ils le font travailler, mais ils le font travailler pour eux. Et donc Smith va faire des rapports. Dans les rapports qu'il va faire, il va parler bien sûr de cette chose qui mesurait un stade ou deux stades de foot américain, XXL. Et il va parler d'autres détections et d'autres observations qu'ils ont faites. Donc il parle d'objets qui ont un diamètre de 100 pieds ou plus, d'environ 30 mètres, de diamètre ou plus, qui voyagent à des vitesses de plusieurs milliers de miles à l'heure et qui peuvent atteindre des altitudes bien au-dessus de celles que devraient supporter des avions ou des ballons de météo, et qui ont une force suffisante semblant permettre toute manœuvre requise. Donc, projet officiel, page 6. Il conclut dans son rapport qu'il est, selon lui, il apparaît alors que nous sommes confrontés à une probabilité substantielle de l'existence réelle de véhicules extraterrestres, indépendamment du fait qu'ils s'intègrent ou non dans notre schéma des choses. C'est-à-dire que nous les acceptions ou pas, eh bien, on ne peut conclure qu'il ne peut s'agir que d'appareils extraterrestres. Alors, il dit que de tels véhicules doivent nécessairement utiliser une technologie considérablement en avance sur ce que nous avons. Et la prochaine étape de son enquête, c'est-à-dire, c'est on devrait fournir un effort substantiel vers l'acquisition de cette technologie, qui serait sans doute d'une grande valeur pour nous.
Comme c'est-à-dire, d'habitude, si on peut récupérer de la technologie, voilà. Tant mieux.
S'ils existent, et c'est avéré qu'ils existent, puisque dans le rapport je vous dis qu'ils existent, nous devons acquérir cette technologie pour nous.
D'accord.
Et il formule, compte tenu de ces facteurs, il est difficile de concilier cette performance avec des capacités de notre technologie, et à moins que la technologie d'une nation terrestre ne soit beaucoup plus avancée qu'on ne le pense, c'est-à-dire, à part nos technologies...
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il se passe exactement en 52
ce qui se passe aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est exact, on en est au même point.
Voilà, c'est-à-dire que les scientifiques te disent, notre technologie, elle n'y arrive pas. Bon, il se pourrait que les Chinois, les Russes, ils y arrivent, mais dans le fait, nous, on n'y croit pas. Parce qu'on ne croit pas qu'ils soient capables de le faire. Et donc, il dit, nous sommes obligés de conclure que ces véhicules sont probablement extraterrestres, malgré nos préjugés contraires. Donc, il signe, page 6. Le projet Magnet 1952 dit, ces véhicules sont extraterrestres. Et il le dit de façon officielle.
D'accord.
Il n'a pas de tabou, pas de préjugés.
D'accord. Il y a eu des livres sur ces...
Il y a Timothy Good. Timothy Good, c'est une personne qui est peu connue, mais il a écrit un livre en anglais, Need to Know. UFOs, The Military and Intelligence, qui est paru chez Pegasus Books en 2007. Timothy Good est une personnalité très intéressante parce qu'il a donné des conférences au Pentagone. Il a des accréditations également au Secret Défense. Et il a donné des conférences sur les ovnis à l'armée de l'air.
D'accord.
Française.
Okay. Ah, française.
Française.
D'accord.
On n'a pas eu cours.
D'accord.
C'est étonnant. Okay. Étonnant.
Alors, il y a quelque chose qui va être très intéressant.
Donc, c'est voilà, en 1952, donc Smith va creuser là-dedans.
Ouais, c'est ça.
Avec son niveau d'accréditation, il va y chercher des sources.
Bien sûr.
Et il nous dit, voilà, en 1952, suivant les affirmations de Smith et ce que j'ai trouvé dans les documents classifiés de la CIA et de l'armée canadienne, il y a eu une grande vague d'OVNI. On sait que l'US Air Force était sur ses affaires. Et il dit que l'US Air Force avait capturé...
Récupéré
un morceau d'OVNI.
Des métamatériaux, qu'en fait,
voilà.
C'est ça.
Qu'il aurait été abattu près de Washington, D.C., lors de la fameuse... voilà. Et qu'il aurait prêté à Smith un fragment pour analyse et que le contre-amiral Knowles était au courant, il l'aurait vu, etc., également. Et cette pièce est donnée à Smith pour analyse. Il a soumis un certain nombre de tests. Et Smith va écrire dans ses rapports et dans ses mémoires... effectivement, il a analysé la pièce, et puis il y a des journalistes qui vont lui poser des questions en disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que cette affaire est vraie, est-ce qu'elle est fausse. Et donc Smith dit, oui, j'ai étudié le fragment, je ne peux pas vous dire ce que c'est, je ne peux pas vous dire les résultats de l'enquête, et j'ai restitué le fragment. Et les journalistes lui demandent, est-ce que vous avez restitué le fragment à l'Air Force qui vous l'avait fourni, et Smith dit non. J'ai restitué, non pas à l'Air Force, mais j'ai restitué le fragment bien plus haut que ça. Okay. Donc ça veut dire à un niveau...
plus élevé.
Pentagone, gouvernement, etc.
Okay.
Donc là-dessus, le projet Magnet chez les Canadiens, c'était une base statique de recherche sur le magnétisme et les émissions radio fixes avec des antennes. Donc on sait que les Américains, la CIA, sont en travail avec lui. Et très très rapidement... L'US Navy lance en 1951 un autre projet qui s'appelle le projet Magnet.
Lui aussi.
Pour établir officiellement la cartographie magnétique du monde. Donc le projet démarre à la Naval Air Station de Pawtucket River, selon le NICAP. Et des avions étaient utilisés, équipés d'appareils pouvant détecter les anomalies magnétiques naturelles ou artificielles, comme celles susceptibles d'être provoquées par les ovnis. Alors, Pawtucket River est très intéressante. Et les avions en question sont très intéressants pour deux raisons.
Bon, on en a vu quelques-uns à l'écran.
La première raison, c'est que les avions utilisés ont été développés dans la zone 51 par la firme Lockheed Martin.
Tiens.
Donc, étrange. Et la deuxième raison, c'est qu'à Patuxent River, c'est là qu'ont été développés les fameux brevets sur la technologie de rétro-ingénierie ufologique, dont les brevets ont été déposés par la Navy en 2021.
En 2021.
Donc on sent quand même qu'entre 1951 et 2021, il y a des choses qui se chevauchent et on retrouve à la fois la zone 51, Lockheed Martin qui est en avance sur les projets secrets, la Navy, des brevets ufologiques sur une technologie qu'on aurait récupérée à un moment donné. Et en même temps, l'Amérique dit qu'on avait des moyens déjà en 1951 de détecter la présence ou l'apparition possible des ovnis. Mmh. Ça c'est intéressant parce que ça ne nous avait jamais été communiqué auparavant. Mmh. On disait toujours, on subit l'OVNI. C'est-à-dire, hop, il apparaît, il disparaît, on ne sait pas qu'il était là, etc. Mmh. Et l'armée américaine nous dit, non, mais on était capable quand même de prédire à quelques kilomètres près que quelque chose allait se produire, parce qu'avant l'apparition de l'OVNI, on était capable de détecter cela grâce aux travaux de Smith, le Canadien. Mmh. Donc il y a quelques exemples qui en résultent. Donc, il y a une photographie qui a été prise par le télescope de George Adamski, le 5 mars 51, d'un vaisseau mère et de vaisseaux éclaireurs plus petits. Donc la photographie a été décrédibilisée.
Débunkée.
Mais elle n'a pas été refusée. L'événement n'a pas été refusé par l'armée américaine, c'est-à-dire qu'ils ont quand même reconnu qu'il y avait eu une anomalie à ce moment-là.
Après, on se souvient aussi que dans ces années-là, on a beaucoup travailler sur des prototypes, on a fait voler trucs qui étaient ovniesques, c'est-à-dire des
soucoupes.
On a pu être aussi induit en erreur.
On a pu être induit en erreur. Alors, je dirais pour les passionnés de l'ufologie qui écoutent BTLV, la première soucoupe volante qui a été testée dans la zone 51, c'était Boeing, 1959.
Ouais.
Mais la technologie, c'était des buses réacteurs, c'est-à-dire une soucoupe avec des buses réacteurs autour. Les premiers brevets de la firme Lockheed Martin concernant des soucoupes volantes, date de 1953.
Ouais, donc tu vois.
Donc on a la soucoupe volante, mais c'était avec des jets orientables, des turbines d'avion miniatures, qui étaient dans la circonférence de la soucoupe. Mais on voit quand même que la technologie terrestre suivait un petit peu les découvertes de l'époque et se mêlait aux découvertes de l'époque. C'est-à-dire à un moment donné, il y avait la confusion des genres. C'est-à-dire à quel moment donné on a pu voir des soucoupes volantes des vraies et à quel moment on a rencontré des prototypes.
C'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est exactement le même problème que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce que ce sont des drones super sophistiqués? Est-ce que ce sont des engins d'origine étrangère à l'Amérique? Ou est-ce que ce sont véritablement des objets volants identifiés qui viennent d'ailleurs? Donc c'est toute cette nébuleuse qu'il y a. Parce qu'on sait très bien qu'entre ce qu'on va utiliser comme voiture dans les 20 ans qui viennent et celles qu'on utilise aujourd'hui, les voitures, elles ont déjà été faites, c'est-à-dire que les prototypes ont toujours 20 ans d'avance.
Ont toujours 20 ans d'avance.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est...
Et donc, il y a quand même trois éléments intéressants. On parle des soucoupes volantes à cette époque-là. On a Bob Lazar qui va nous dire que une soucoupe volante était étudiée avec de la rétro-ingénierie. Donc, on s'est moqué de lui parce qu'il parlait de l'élément 115 qui était au cœur du réacteur. On dit, oh, l'élément 115, le gars, c'est un bouffon. L'élément 115, il n'existe pas. C'est pas possible. D'ailleurs, il figure pas. Il figure pas sur les fichiers de la zone 51, etc. Par la suite, l'élément 115, on a bien été obligé de dire qu'il existait. Mmh. Et ensuite, on a bien été obligé de dire qu'il était sur le listing téléphonique de la base. Ouais. Donc, si quelqu'un est dans un listing téléphonique d'une entreprise, c'est qu'il bosse là-bas. Mmh. Et en même temps, dans la zone 51, dans les années 50 jusqu'aux années 70, et plus tard, entre 70 et 90, sur une autre grande période, l'entreprise Lockheed Martin a travaillé sur des prototypes donc de transport aérien exogène et de soucoupe volante. Et il y a un ingénieur qui en parla à la télévision, qui est décédé aujourd'hui, et qui disait au départ, c'était de la rétro-ingénierie. Mmh. C'est-à-dire qu'on voulait utiliser de l'ingénierie qu'on ne connaissait pas, sauf qu'on n'arrivait pas à faire pareil. Donc, on a créé d'autres prototypes avec une ingénierie intermédiaire. Mmh. Donc le plasma, l'électromagnétisme,
etc. Alors, on est en plein cœur du projet Blue Book à cette époque-là.
Donc on est en plein époque de Blue Book. Donc le projet Blue Book, le cas 2496 de James McDonald.
Qui a été consigné dans le projet Blue Book.
Voilà, va nous parler. Donc avant lui, la marine américaine avait détecté en mer de Chine, pendant la guerre de Corée, un objet en approche. Et l'objet en approche faisait 1610 km/h. Il émettait une lumière très brillante et d'une couleur métallique virant au bronze. Donc ça, ça figure également sur le projet Blue Book. Et c'est intéressant parce que cet OVNI qui avait été détecté par la marine américaine fait partie des détections radar, des fameuses détections radar faites par l'armée américaine. Mmh. Avant que la soucoupe arrive, ils savent qu'elle va arriver parce qu'ils ont des anomalies qu'il y a à faire. Le projet Smith est là. Il est crédible puisqu'on a des preuves. Et donc on a une autre affaire, c'est un groupe de lumière, de 5 à 10 lumières colorées, qui se déplaçait à l'arrière du côté gauche d'un avion, à une distance de 3 à 7 miles. Et cette cible a été suivie visuellement et au radar sur un des fameux radars aéroportés de la Navy, qui était issu du projet Magnet. Donc en même temps, ils te disent on est là pour cartographier les anomalies magnétiques de la Terre, mais comme par hasard, on se trouvait là au bon moment, au bon endroit, quelque chose est apparu, et on l'a suivi. Mmh. C'est-à-dire que les gars, ils ont une mission, on leur dit cartographie, tel truc, machin. Il arrive une anomalie, ils voient des ovnis, ils les suivent. C'est quand même bizarre, mais bon. Ces cas sont envoyés en 1953 au docteur Robertson, qui fait partie du projet Blue Book. L'incident a été suivi par 10 témoins. Les 10 témoins sont des officiers de l'armée de l'air, de la Navy. Et ça a été vu au-dessus de la mer du Japon, entre le Japon et Vladivostok, si je me souviens bien, entre l'URSS et puis le Japon. Et on a eu des contacts visuels et technologiques par les radars sur au moins la présence de 10 ovnis qui ont fait 70 survols différents. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont joué également avec l'avion. À un moment donné, quand l'avion les a suivis, eh ben, ils se sont amusés. Je reviens sur toi, tu reviens sur moi, on s'éloigne. Ils attendent stationnaire que l'avion les rejoigne et puis changent de direction, etc. Dans une sorte de bal aérien. On est quand même dans quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on l'écrirait dans un livre, les gens ne le croiraient pas. Mmh. Voilà.
Autre histoire qui va nous ramener cette fois-ci en 54. On sait que 54, dans un instant on en parlera, parce que ça a été une grosse opération, une grosse période en France aussi, dans le monde ça a été. Mais en 53, il y a aussi du côté de Vladivostok qui s'est passé quelque chose.
Donc du côté de Vladivostok, en URSS, c'est le 14 mars 53, 23h11. C'est un avion espion Lockheed, encore une fois Lockheed Martin, de la firme Skunk Works. Works, oui, bon, désolé. Alors, ça veut dire le travail de la moufette. Mm-hmm. Donc, pourquoi la moufette? Parce qu'à un moment donné, il y a un militaire qui a téléphoné au centre de recherche de Lockheed Martin pour avoir des informations. Lui, il croyait que c'était ses collègues qui l'appelaient, et il a dit, oui, ici la moufette, j'écoute. Mm-hmm. Et depuis, ça leur est resté. Donc, c'est un sconce, c'est une moufette.
D'accord.
Leur animal fétiche. Et ça cache l'ingénierie la plus secrète de Lockheed Martin, c'est-à-dire sur les prototypes les plus extraordinaires, etc.
D'accord.
Et donc, dans le Lockheed, Lockheed était vraiment un P2 Neptune qui était le top de l'époque pour le suivi, détection radio, etc. Et à une altitude de 9000 pieds, il va observer deux lumières brillantes clignotantes qui émettent des modes comme un code Morse en D.
D'accord.
Alors pareil, ils disent, tiens, c'est bizarre, on va le suivre. C'est enregistré, donc le rapport existe chez la Navy, il existe également dans le projet Blue Book, très détaillé, c'est-à-dire qu'on a à la fois des observations visuelles, des observations radar, des analyses d'altitude, de déplacement, etc. Et l'affaire a été également détectée par les Soviétiques.
D'accord.
C'est-à-dire que, bon,
des deux côtés,
l'affaire n'est pas réfutée. Dans cette même période des années 54, Wilbur Smith est invité par un amiral à la retraite. C'est-à-dire, on voit quand même qu'il a des liens avec des Américains. Non seulement ils subventionnent ses travaux, mais en même temps, ils le font venir aux États-Unis, ils le font rencontrer d'autres personnes, des passionnés, qui font avancer son sujet. Et donc, un amiral à la retraite de l'US Navy, qui s'appelle M. Knowles, l'invite à le rejoindre chez lui, dans sa maison, dans une petite ville qui est inconnue pour la plupart des gens, qui s'appelle Elliott, dans le Maine. Et lui dit, bien, il faut que tu viennes chez moi, il faut que vous veniez chez moi pour rencontrer ma voisine.
Alors, on va la remettre, la photo.
Voilà, donc sa voisine, c'est la seule et unique photo qu'on a de cette personne. Mm-hmm. Cette photo est dans les registres du FBI. Mm-hmm. Voilà, parce qu'elle a été auditée par le FBI, on saura pourquoi. Et donc, cet amiral à la retraite de l'US Navy lui dit, il faut que tu rencontres Frances Swan, ma voisine. Elle va te dire des choses extraordinaires. Voilà, elle dit qu'elle est en contact télépathique avec des entités d'un autre monde. Mmh. Ah, c'est lunaire. Bon, il vient quand même. Hein. Mmh. Moi, il m'aurait dit, tu viens, il faut que tu la rencontres, j'y serais pas allé. Mais bon, ça paraît quand même...
En même temps, on dit souvent que les médiums sont en contact avec des entités.
Je me serais dit, ouais, bon... qu'est-ce qu'il me raconte, sa voisine
Après, c'est un amiral, quand même, qui
demande... C'est un amiral, donc on se dit, bon, quand même, le gars, il est sérieux.
Oui,
bon.
C'est ça.
Alors, bon, il l'a fait venir, il le fait venir, et puis elle commence à déballer des trucs, tac, 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 et elle raconte ses visions. C'est un médium, alors après, on donne du crédit à la médiumnité ou pas. Mais, dans ce qu'elle lui dit, bon, il n'est pas tout seul, Smith, hein. Bon, l'amiral à la retraite l'invite, mais bon, il y a quand même des agents de la CIA qui sont là-bas.
Ah aussi, quand même.
Comme par hasard, il y a Smith, il y a l'amiral, il y a du monde. Hein. D'accord. Il y a du monde dans cette petite maison. Et puis, elle commence à faire des déclarations. J'ai des visions, j'ai des contacts, etc. Et puis Smith, et puis les personnes qui sont présentes disent, oh, c'est quand même bizarre. Bon, la plupart des choses qu'il nous raconte, c'est quand même gros. Il y a beaucoup de fake. On ne peut pas lui donner de crédit. Mais bon, il y a quand même...
Surtout, on ne peut pas vérifier, quoi.
On ne peut pas vérifier. Et puis bon, il y a quand même 5% de choses qu'elle dit qui sont étranges.
Qui sont étranges et qui peuvent être importantes.
Quoi. Qui peuvent être importantes et elle touche du vrai. C'est-à-dire que dans les 5% des choses qu'elle leur dit, elle dit des choses qu'elle ne peut pas savoir. Que seulement la CIA ou Smith peuvent savoir. Donc là, ils se disent, tiens, c'est bizarre, comment elle est au courant. Et donc, Smith et la CIA disent, ouais, mais bon, on ne peut pas travailler avec elle...
Elle invente 95% des choses.
Elle invente 95% des choses. Elle a eu du bol. Elle est tombée sur 5 trucs. On va la travailler au corps. Elle va nous dire comment elle les a apprises. Mais ce n'est pas possible que ce soit venu jusqu'à elle comme ça. Bon. Et parmi les déclarations de Francis, elle leur dit qu'elle est en contact télépathique avec des vaisseaux-mères qui sont stationnaires au-dessus de la Terre. Mmh. Donc c'est quand même gros, c'est balèze. Hein. Mmh. Alors ils se disent, ouais, comment est-ce que nous, on ne peut pas détecter la présence de vaisseaux-mères extraterrestres gigantesques, avec lesquels elle pourrait être en contact. Mmh. Donc là, elle est out. Hein, c'est du fake à 100%. Bon. Le 23 août 1954, un journal de l'Aviation and Space Technology révèle, de façon très officielle, que les radars de l'Air Force avaient détecté à l'automne 1953, à l'époque où Smith et la CIA auditaient cette médium, deux satellites, énormes satellites, qui étaient, d'après l'Air Force, des vaisseaux-mères extraterrestres larges de près de 16 km.
Oh, les beaux bestiaux.
C'est énorme.
C'est monstrueux.
Et avec des altitudes estimées de 640 et 960 km au-dessus de la Terre.
Bon, la vraie problématique dans ce genre de choses, c'est que si tu as un vaisseau de 16 km, même à 960 km, tu le vois.
Tu le vois.
Tu vois, c'est...
Donc, les astronomes...
Quand on arrive à voir l'ISS qui est à 450 km, on la voit passer, mais c'est tout petit. C'est imaginons un truc de 16 km, tu verrais une masse quand même. Parce... Ou alors, c'est sombre complètement, mais ça cacherait les étoiles quand même.
Ça cacherait les étoiles qui est derrière.
On verrait quand même.
Si on branche un télescope et qu'il y a une masse entre toi et les étoiles, tu ne vois pas.
Oui, c'est ça. Donc,
tu ne vois pas. Comment est-ce que l'US Air Force a validé l'existence potentielle,
ça me paraît énorme,
de vaisseaux-mères qui existeraient bon, ils ont quand même pondu un rapport officiel en disant oui, bon, c'est quand même bizarre. Hein. On va revenir sur la ville d'Elliott dans le Maine. Bon, c'est vraiment un aparté, mais on doit en parler. Pourquoi ? Parce que la ville d'Elliott dans le Maine, pour les passionnés d'ufologie, n'est pas inconnue. C'est le lieu du célèbre cas de l'enlèvement de Betty et de Barney Hill en 61.
Bien sûr.
Presque 8 ou 7 ou 8 ans plus tard.
Alors, coïncidence, ils habitent à 5 km, à moins de 5 km de chez Frances, la fameuse médium.
Tout à fait. C'est des proches voisins, c'est la campagne américaine, ils habitent à moins de 5 km. C'est des gens qu'il a croisés dans les supérettes du magasin.
Bien sûr.
Donc là-dessus, bon, que l'histoire soit vraie ou fausse, on ne sait pas. Hein. Moi, j'ai mis des réserves, toi aussi, on n'est pas les seuls. Bon, officiellement, il y a Lenny qui dit oui, on a vu quelque chose, on a détecté quelque chose. Elle dit, mais je suis en contact avec ça. Bon, on voit bien qu'on a les mêmes difficultés que Smith et la CIA à valider...
Je reçois régulièrement des gens...
Les capacités des médiums.
Oui,
et pourtant, on a envie.
Oui, mais je reçois régulièrement des gens ici qui
envie.
Disent être en contact avec ces entités.
On a envie, mais bon, c'est tellement gros pour nous qu'on se dit, bon, là-dessus, bon, la CIA lâche pas l'affaire, c'est-à-dire qu'ils vont la soumettre à un certain nombre de tests et de questionnements. Et puis, Julius Larsen va prendre les informations, les dossiers de la CIA sur cette médium, hein, de Frances. Et il dit, ouais, bon, d'accord, c'est gros. Comme ce que toi et moi, c'est gros, c'est énorme. Moi, je prendrais ça, hop, je te balancerai à la poubelle, mais il y a les 5%, et dans les 5%, il y a des choses qui sont bizarres.
Bah, c'est toujours le plus important.
Et donc, il prend les dossiers, il part directement physiquement à Washington, il les emmène dans sa serviette, et le 6 juillet 59, il les présente à Monsieur Arthur Lundahl. Mm-hmm. Lundahl. Mais Lundahl n'est pas connu des gens, vous allez comprendre qui c'est. Lundahl, il appartient à la CIA. Mmh. Au Centre National d'Interprétation photographique de la CIA. C'est-à-dire que lui, il interprète les photos prises par les avions espions au-dessus de l'URSS.
Bien sûr.
À un niveau hautement confidentiel, parce que bon, c'est des bases militaires.
C'est un homme clé du renseignement américain.
Un homme clé du renseignement américain, et c'est la deuxième personne de ce dossier qui a un level d'accréditation secret défense au sommet de la pyramide. C'est-à-dire qu'il a le plus haut niveau. Il a le niveau de contact avec le président et avec le Pentagone et avec le Congrès.
Alors, Lundahl est quand même très important. C'est un homme clé du renseignement américain parce qu'il va faire une découverte en 62.
Donc, il va faire une découverte en 62. C'est lui qui va découvrir les fameux missiles cubains, les missiles soviétiques sur le sol cubain qui sont à portée de Miami.
Et qui ont failli mettre le monde...
Et qui ont failli déclencher une guerre nucléaire.
Il y a eu un film, d'ailleurs, je crois.
Donc, il y a un film célèbre qui, sur cette époque-là, qui a été fait à Hollywood et qui retrace un petit peu à la fois l'histoire de Lundahl, de la CIA, du président Kennedy à cette époque-là et toute l'affaire.
Un film avec Kevin Costner.
Magnifique. Avec Kevin Costner, avec des célébrités. Très très vite, la CIA va dire, bon, malgré tout, c'est une personne qui est intéressante, on fera le tri. C'est-à-dire, on ne peut pas lâcher dans la nature cette dame française, là. Elle est intéressante, elle raconte un petit peu des conneries, etc. Mais dans les conneries qu'elle raconte, il y a des trucs qui sont intéressants et qui sont vrais. Et on ne peut pas la laisser raconter n'importe quoi, on va la récupérer.
Et surtout à n'importe qui.
À n'importe qui. Et donc, ils vont faire un test. Donc, nous avons Lundahl, son assistant, Larsen, et le lieutenant-commandant Robert Nisham. Donc ces trois personnes de la CIA, et pas tout seul, bien entendu, c'est des gens qui sont à très, très haut niveau, hein, s'amènent avec des agents de sécurité, etc. Ils investissent la maison de cette dame et ils disent « Ouais, d'accord, vous êtes médium. Ok, pas de souci. Maintenant, vous êtes médium, vous êtes en contact avec les extraterrestres, on est d'accord. »
Faites-nous une démonstration.
Voilà, c'est ça. Démo. Vous nous faites une démo, vous nous prouvez ce qu'on veut savoir, on ne veut pas vous poser des questions, on ne veut pas qu'ils nous répondent, nous, on veut voir. On veut voir. Et donc... D'après les rapports de la CIA, cette dame va entrer en contact télépathique avec des entités extraterrestres. Alors, deuxième coup de massue. Alors déjà, les deux satellites artificiels, tu avais du mal à... J'ai vu que... tu boitais, tu te disais, oh, là, ce me raconte...
16 kilomètres, machin, tout ça, ça me paraît...
Un truc. Ben là, c'est encore pire. Elle rentre en contact avec les extraterrestres et une soucoupe apparaît.
Ah.
Devant la maison de Madame Frances.
D'accord.
Hein? Entre la maison...
Mais là, les agents de la CIA sont avec elle?
Oui. Ils sont là. Donc on parle des mêmes personnes. Lundahl, Larsen, Nisham et leur équipe de sécurité sont là.
D'accord.
Sont là. Donc c'est eux qui racontent, on a vu. Bizarre quand même.
Okay, c'est bizarre.
Et ça se passe entre chez elle et puis la maison des Barnil.
D'accord. Ah, d'accord.
Tu vois? Donc on est quand même à un endroit, il y a un couple qui s'est fait abducter. De l'autre côté, on a une voyante, une médium qui te dit bah, « moi, j'ai des contacts extraterrestres ». Là, c'est il y a des barques, pouf, entre les maisons des deux, il y a une soucoupe qui apparaît.
D'accord. C'est ce qui va faire d'ailleurs que Frances va rester en contact avec les services secrets américains pendant longtemps. Hein.
Donc suite à ça, Madame Frances Swain va disparaître. Comme dans le film Projet Blue Book, donc à partir du moment où elle est devenue intéressante, elle n'a plus existé dans sa maison, elle n'a plus utilisé sa carte de sécurité sociale, elle n'a plus utilisé une carte bancaire, elle n'a plus eu d'existence physique normale, on ne retrouve plus de photos d'elle, plus de témoins.
Elle est devenue agent.
Personne de sa famille ne sait où elle est passée. Par contre, la CIA... dit dans ses rapports, oui, c'est une personne qui a travaillé pour nous pendant 30 ans.
Ouais, c'est ça.
Donc ils l'ont pris, l'ont emmené ailleurs, terminé,
ouais, bien sûr.
Out.
Ouais, out. Ouais. Mais en même temps, à l'époque, la CIA travaillait beaucoup avec les voyants, ils travaillaient aussi avec les, tu sais, les remote viewers, etc.
Voilà, donc, des mentalistes, etc. Ouais, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils l'ont vraiment fait disparaître. C'est-à-dire qu'ils disent, on l'a payé pendant 30 ans, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Peut-être changer d'identité.
Peut-être changer d'identité, et on ne trouve plus aucune photo d'elle.
D'accord.
Ni plus aucune dépense, je dirais, de remboursement de la sécurité sociale pour des frais de santé ou pour de la nourriture. Plus de carte bancaire.
Et alors Smith dans tout ça?
Eh bien, Smith, il conduit son programme de recherche à Shirley Bay.
Toujours,
tranquillement, pendant quelques années. Il développe ce qu'il prédit être un dispositif anti-gravité révolutionnaire lors d'une conférence de presse de 1959.
D'accord.
Alors, on y reviendra plus tard dans une future émission de BTLV sur les projets secrets, les brevets OVNI concernant le plasma et les moteurs magnétiques et les soucoupes.
D'accord.
On verra qu'il est en avance en 1959, mais pas complètement à côté de la plaque.
D'accord. Donc, il va déclarer quelque chose.
Donc, il dit, nous avons mené des expériences qui montrent qu'il est possible de créer une gravité artificielle,
ouais,
pas une force centrifuge qui ferait tourner la soucoupe, mais une force magnétique qui la soulève, et de modifier le champ gravitationnel de la Terre en interférence avec l'appareil qui va voler. Alors, ça, pour nous, on va dire non. On est en 1959. Je précise, les brevets officiels de la Navy disent oui, c'est possible.
D'accord. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas.
Aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, on y reviendra. Je fais un tout petit aparté. Un champ gravitationnel qui modifie l'espace-temps, qui modifie l'appareil qui monte, qui descend, qui disparaît dans un espace-temps quantique qui n'est pas le nôtre. Des brevets ont été déposés par la Navy au service des brevets américains. Quand le gars de la Navy, un juriste, est arrivé avec les brevets, il dit, ben voilà, je pose ça, tac. Il l'a mis sur la table. 2021. La personne qui a enregistré les brevets, il l'a lu comme ça, il a dit, écoutez, non, ça c'est du fake, ça c'est de la bouffonnade, moi je ne vous enregistre pas. C'est quand même incroyable. Généralement, quand tu déposes un brevet, le gars il lit le truc, il regarde si tu as rempli les cases, il te dit, ça fait 150$, ça fait 300$,
oui,
un coup de tampon et tu pars.
Là, il analyse le truc, le mec.
Il analyse le truc, il appelle son chef il vient, il dit que non, on ne donne pas. Ce brevet, vous ne le déposez pas chez nous. Vous allez, les journaux du coin, la sensation, vous leur vendez votre truc. Mais votre brevet, c'est du fake, ça ne marche pas. Donc le gars retourne à la Navy et dit à ses supérieurs, ils ont refusé de me valider le truc. Ah bon. Alors ils font venir le gars avec un avocat, une deuxième fois, il vient avec les doigts. Hein, il dit, voilà, paf. Et il apporte un document de la Navy,
ouais,
qui dit, nous attestons la validité et la véracité des faits que nous décrivons dans les brevets. Le type de fonctionnement existe, nous l'avons testé en laboratoire et il a fonctionné.
D'accord.
On est en 2021, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 1900, on est en 2021. Donc on voit quand même que Smith était très 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 en avance. Les Canadiens étaient, j'allais dire, visionnaires. Visionnaire dans le domaine.
Ouais.
Même s'ils n'avaient pas tout à fait encore la technologie ou l'évolution de la technologie.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il a travaillé pendant longtemps. Quoi, donc, sur
il a travaillé pendant longtemps, mais bon, depuis, nous, on a fait des pas de géant depuis.
Alors, il va décéder d'un cancer, ce Smith.
Voilà, il va décéder très tôt, très jeune, d'un cancer.
Et il va avoir des velléités testamentaires, quand même.
Voilà, il est mort à 52 ans. Hein, ça fait quand même jeune, hein, d'un cancer. Le 27 décembre 62. Et donc, on arrête, son travail s'arrête sur les dispositifs anti-gravité au centre de recherche de Shirley Bay. Et puis, il a des volontés testamentaires, c'est-à-dire qu'il dit, j'ai travaillé pour le gouvernement, j'ai travaillé avec des budgets pour l'armée, etc. Par contre, les dernières découvertes que j'ai faites, je ne souhaite pas qu'elles soient communiquées.
D'accord.
Je souhaite qu'elles soient conservées confidentielles et qu'elles soient dissimulées. Donc, sa veuve, Mary Smith, va respecter ses volontés, c'est-à-dire qu'elle, hop, il va aller avec sa famille à Shirley Bay, il va récupérer tout ce qui est possible, imaginable. Ce qui est à la maison, paf, on le récupère, on le cache. Et puis, fin des années 60, le docteur Patterson et des scientifiques de l'aérospatiale vont enquêter sur les affaires ovnis canadiennes. Et puis, on leur demande à leur tour de signer un accord de confidentialité. Et puis, ils ont étudié des cas photographiques de l'époque de Smith. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, Smith, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, Frances disait qu'elle était capable d'entrer en contact télépathiquement. Eh bien, Smith, lui, il était capable, à un moment donné, de recevoir des interférences magnétiques, de les interpréter, d'avoir cette préhension, c'est-à-dire qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose.
Ouais.
Et des photos ont été prises. Donc des photos ont été prises, certaines n'ont pas pu être cachées par son épouse, et elles ont été soumises à un comité d'ingénieurs de l'aérospatiale qui les ont analysées, et on leur a dit, vous signez là, ce que vous allez voir, ce que vous allez étudier, vous ne pouvez pas en parler, parce que sinon c'est prison, c'est amende, etc. etc. Et donc, le docteur Patterson, avec son équipe, dit, oh là là, moi j'y crois pas, oh là là. les photos, les machins, les trucs, tout ça, c'est du bidon, etc. Par contre, dans son rapport qu'il va faire à l'université, dans une université, il dit « Des cas avec des preuves photographiques ont été qualifiés d'inexplicables. Le contenu d'observation est parfois de rapport de preuves physiques. » Il parle de rapport de preuves physiques. Ouais. Donc, quand on parle de preuves physiques, on se rappelle, on se souvient hein, que Smith avait étudié des débris,
ouais,
des débris d'une soucoupe. Hein. Ouais. Et il dit « Il devrait faire l'objet d'une enquête, mais... » bien qu'ils étaient, on en faisait mention dans les dossiers, ils ne figuraient pas dans les dossiers. Mmh. C'est-à-dire que dans les dossiers qu'on lui a soumis pour analyse, il était fait mention d'autres photos, d'autres preuves et d'artefacts auxquels il n'a pas eu accès. Mmh. Voilà. Les membres de l'université qui ont travaillé à la fin des années 60 à l'étude de ces mystérieux documents vont faire part à d'autres scientifiques américains qui étaient en affaire avec l'ufologie, dont le docteur Hynek ou McDonald en 68. Donc, on le dit, on a travaillé sur des choses confidentielles. On peut vous dire en résumé qu'il s'agissait de ça, mais on ne peut pas vous dire le contenu.
On va clôturer ce dossier de ce projet Magnet. C'est beaucoup de documents canadiens, c'est des documentations et des observations.
Voilà, donc le Canada. C'est, sur les ovnis, hein, c'est 9000 documents gouvernementaux. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus de 15000 pages de documentation. Et ce sont 4500 observations uniques. C'est-à-dire que 4500 observations ont été classées secret défense et ont été reconnues par le gouvernement canadien et l'armée américaine comme étant officiellement des ovnis.
C'était François Garigeau, mesdames et messieurs. Merci d'être venu sur BTLV comme tous les mois pour nous parler d'un dossier ufologique. Cette fois, c'était le projet Magnet. J'espère qu'on a fait le tour de la question. Beaucoup d'informations, c'est à voir, à revoir, bien sûr. Merci François.
Merci Bob.
À bientôt. Belle fête de fin d'année à toi et à très bientôt.